1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Bah ouais, toi?
Ouais. C'est moi qui prends la main.
C'est toi qui prends la main pour continuer à parler masculinité.
Ouais, on va terminer notre cycle masculinité au pluriel et je vais essayer de te proposer des trucs pour qu'on ouvre un peu le sujet qui est inépuisable. Hein. De toute façon, on peut le prendre sous plein d'angles différents.
Ouais.
Mais dans un premier temps, je te propose, parce que c'est dans l'actualité, c'est un bouquin qui est sorti très récemment, et c'est une historienne qui a sorti un petit essai qui s'appelle « Le coût de la virilité ».
Ouh, le coût ?
Ouais.
Mais et le coût avec un T, avec un P ?
C-O-U, accent circonflexe, T.
D'accord.
Le coût, combien ça coûte ?
Combien ça coûte, tout
ouais.
ça ?
Alors, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais on va l'écouter, c'est assez intéressant. Elle s'appelle Lucille Pétavin, j'adore son nom.
Ça m'étonne pas.
Et du coup, elle a essayé d'estimer quantitativement ce que pouvait coûter la virilité à la société. Mais alors, l'approche quantitative est intéressante, mais ses explications et l'aspect qualitatif l'est tout autant, voire plus. On l'écoute.
Le coût de la virilité, donc je l'estime à 95,2 milliards d'euros.
Enfin, super, non, c'est terrible, mais super pour votre réponse.
Alors, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. Un jour, je suis tombée donc sur le pourcentage de la population carcérale masculine, qui est de 96% en France. C'est un chiffre qui m'a tout de suite frappée, qui m'a interpellée. Je me suis demandé comment il était possible déjà que je ne le sache pas, qu'on n'en parle pas, que ce ne soit pas discuté dans la société. Les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves, puisqu'ils représentent 99% des auteurs de viols, 86% des auteurs de meurtres, 85% des auteurs de vols avec violence, etc., etc. Et du coup, je me suis demandé ce que ça voulait dire de la violence dans notre société et surtout de l'implication des hommes dans la délinquance et dans la criminalité. Alors, la virilité n'est pas innée, puisqu'on voit que chez les hommes, il n'y a rien qui les prédétermine à avoir des comportements virils. Tout d'abord, c'est des comportements qui n'ont pas toujours été dans l'histoire. Aujourd'hui, les études de paléoanthropologie montrent que ce sont donc des comportements qui se sont instaurés au néolithique, donc vers moins 12 000 avec l'avènement de l'agriculture et la sédentarisation des populations, et qu'au paléolithique, c'est-à-dire avant cette période, on était dans une société beaucoup plus égalitaire, où les femmes aussi avaient du pouvoir, où les femmes aussi chassaient, et donc la domination s'est installée au néolithique. Donc dans le temps, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été, et donc par définition une construction sociale. Et également, les sciences, donc la biologie, la neurologie, montrent qu'il n'y a rien de physiologique chez les hommes qui les prédétermine à se comporter ainsi. Ni le cerveau, puisque lorsque l'on naît, il n'y a que 10% des connexions cérébrales qui sont faites et les 90% autres se modèlent en fonction de nos apprentissages, de nos expériences de vie. Donc finalement, nos aptitudes ne sont pas prédéterminées. Dans cet essai, je ne vise pas les hommes, mais je vise l'éducation qu'on leur donne et qui repose sur ces valeurs viriles et qui les pousse finalement à des démonstrations des forces et à avoir des comportements violents et des comportements asociaux dans notre société. Le coût de la virilité, donc je l'estime à 95,2 milliards d'euros par an. Pour donner quelques ordres de grandeur, on estime par exemple l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros, la dette des hôpitaux publics est à 30 milliards d'euros, le budget de la recherche est à 50 milliards d'euros par an. Donc voilà, on s'aperçoit que le coût de la virilité est une somme tout à fait colossale. Le coût de la virilité correspond aux sommes qui sont dépensées par l'État et la société pour faire face aux comportements asociaux des hommes. Ces sommes sont de deux ordres. Tout d'abord, c'est un coût direct qui est supporté par l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé. Et un coût indirect qui est lui supporté par la société et qui correspond aux souffrances physiques et psychologiques des victimes mais qu'on peut estimer financièrement, également aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes et aux destructions de biens. J'espère que cet essai sera une première pierre, effectivement, pour une prise de conscience de ce que coûtent ces comportements, mais que ce soit au niveau financier, mais au niveau humain également. Et j'espère que ça contribuera à déconstruire la virilité, à déconstruire les comportements nocifs qui découlent de cette notion de virilité, puisque voilà, on s'aperçoit que les conséquences sont faramineuses et sont tout à fait néfastes pour la société dans laquelle on vit.
Réaction, Ghislain ?
Oui, elle a oublié la chute des cours de bourse, la hausse des droits de douane, elle a oublié aussi la fuite des cerveaux scientifiques, elle a oublié tout ça.
C'est vrai que ça rentre aussi en ligne de compte. Au-delà, effectivement, de... Enfin, je sais pas comment précisément elle a fait son chiffrage, j'ai pas lu le bouquin, mais je trouve hyper intéressant ce qu'elle pointe, en fait. Déjà, sur le fait que la domination masculine est une construction sociale.
Oui.
Moi, elle m'apprend qu'il y a un basculement au néolithique. C'est là que ça se met en place. Après, je pense qu'il y a des civilisations postérieures au néolithique dans lesquelles il y a un équilibre masculin-féminin qui est moins déséquilibré, si je puis dire, que ça ne l'est aujourd'hui.
Et puis surtout, c'est pas aussi monolithique que ça, en fait.
Oui, oui.
Moi, je renvoie toujours à XY de Elisabeth Badinter, qui nous parle des virilités, en
fait. Oui, ben ça, effectivement, c'est ce qu'on a évoqué tout au long de ces émissions. Mais on reste quand même, et puis là, avec le backlash qu'on se prend dans la gueule, on voit qu'il y a quand même des stéréotypes qui ont la vie dure, et on pensait éventuellement que ça allait en s'adoucissant, avec plus de diversité. Là, on est quand même à un tournant, et il faudrait pas qu'on le rate, quoi.
Ouais. Il y a une série là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle Adolescence.
Oui.
Qui est absolument extraordinaire, un objet cinématographique extraordinaire.
Ouais.
Et justement,
disponible
qui nous
sur
parle
Arte.
De ça.
Ouais. Et sur Netflix aussi.
C'est sur Netflix.
Ouais.
C'est sur Netflix. Elle est vraiment très bien, justement.
Mmh. Très intéressante à voir. Ouais.
Ouais. Sur l'endoctrinement des jeunes hommes.
Mais du coup, effectivement, il y a quand même une révolution à mener, ou à continuer de mener, très clairement. Et du coup, ça fait le lien avec le prochain son que je te propose, qui tourne autour de la vulnérabilité des hommes.
Ooh.
Et il y a une artiste qui s'appelle Maewa qui va nous en parler. Je te propose qu'on l'écoute.
On a beaucoup entendu, après MeToo, Not All Men. Non, mais pas tous les hommes. Tout le monde n'est pas coupable, mais on est tous responsables. La masculinité, c'est plusieurs choses. C'est la vie d'un homme, une vie masculine, on pourrait dire ça. Mais en fait, la masculinité, c'est le contenant de toute notre société. Donc, tous les gens qui prennent des décisions sont majoritairement des hommes. Tous ces hommes-là ont créé une culture qui impacte tout le monde, en fait. Les hommes, les femmes, les animaux, tout le vivant. Et donc, si on ne réinterroge pas la masculinité, si on ne la met pas à plat pour la défaire, on ne va pas pouvoir continuer à vivre ensemble en tant qu'espèce et en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'amant, en tant que parent, en tant qu'ami. Et donc, il faut absolument qu'on s'attaque à cette question. Je m'appelle Mayua. Je suis artiste d'origine vietnamienne basée à Paris et je viens de réaliser deux films, Les Rivières et Make Me a Man. Et Make Me a Man, c'est un film que j'ai co-réalisé avec mon compagnon qui est thérapeute et qui a des groupes de paroles d'hommes. Donc c'est sur une parole qu'on n'entend pas, qui est intime, vulnérable et masculine. Quand j'ai récupéré ces rushs pour en faire un film, j'ai été estomaquée par mon inaptitude à écouter cette parole. Je ne voulais pas entendre cette parole parce que j'étais pas préparée à accueillir la vulnérabilité masculine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le monde tel qu'il est écrit aujourd'hui, la partition genrée telle qu'elle est écrite aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est ne pas entendre la vulnérabilité des hommes. Être vulnérable pour un homme, c'est le grand impossible. Tu ne dois jamais montrer de faiblesse, tu ne dois jamais te déposer en fait. Tu dois toujours être droit, être dur, être fort. Et nous, on pense qu'il faut exactement faire le contraire. Il n'y a pas une essence féminine, il n'y a pas une essence masculine en fait. Donc les femmes ne sont pas naturellement empathiques, les hommes ne sont pas naturellement violents. Ils sont, en tout cas pas au niveau individuel, mais à l'échelle d'une espèce, ils sont ce qu'on va célébrer d'eux ou d'elles. Donc, si je célèbre chez les hommes d'être violents, eh ben, certainement qu'ils vont devenir un peu plus violents. Et quand on regarde le cinéma, quand on regarde les séries qu'on aime, la violence des hommes, elle est juste incroyablement omniprésente, quoi. Avec le féminisme, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une manière d'être une femme. Et puis, il y a eu cette phrase, cette fameuse phrase, on ne dit pas les femmes, mais des femmes. Et en fait, c'est l'exploration de nos singularités. Et en fait, pour les hommes, c'est pareil. Il n'y a pas une définition de la masculinité aujourd'hui. On est juste tous du même côté. Et dans ce même côté, on peut faire se déployer plein de singularités différentes, qu'elles soient masculines, féminines, non-binaires, peu importe. Pour moi, l'urgence, c'est de vraiment plus nous poser cette question, c'est quoi un homme aujourd'hui, mais de nous vraiment de poser la question de qu'est-ce qu'on aimerait célébrer ensemble, quelle est la conversation qu'on aimerait avoir les uns avec les autres, quels sont les outils qu'on peut se donner pour nous écouter davantage. Et je pense que cette révolution de l'écoute qu'on a tant développée chez les féministes, il faut qu'on le développe auprès des hommes. On a beaucoup entendu après MeToo, not all men. Non, mais pas tous les hommes. Et donc, il y a une sorte de brouhaha qui nous court-circuite dans le dialogue qu'il faut avoir. En fait, si 80% des femmes subissent des agressions sexuelles, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde n'est pas coupable, mais on est tous responsables pour créer une autre société ensemble. Tous et toutes. Et donc, les hommes ont totalement leur place à prendre dans cette révolution. Et c'est pas tous les jours qu'on a une révolution à faire.
Gislain ?
Bah, c'est oui, moi je trouve ça super intéressant ce fait de tout ce qui est les singularités en fait. Tu vois, je trouve ça vachement intéressant de voilà, il y a pas une seule voix, il y en a plein, autant d'individus, autant de voix.
Je trouve hyper intéressant aussi ce qu'elle soulève en quand elle parle de qu'est-ce qu'on choisit de célébrer dans la masculinité comme dans la féminité, quoi. Et si on reste ancré dans des stéréotypes, là, ça devient problématique. Par contre, si on diversifie les champs et qu'on est capable d'apprécier une multitude, une pluralité de masculinité, une oui. multitude, une pluralité de façons d'être une femme, et ben voilà, ça ouvre le champ des possibles.
Mais au lieu de célébrer quelque chose par sexe biologique, on peut tout simplement célébrer quelque chose par espèce, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on célèbre chez l'être humain.
Et voilà, en fait, c'était ce qui me venait à l'esprit juste quand j'étais en train d'exprimer ce que je viens d'exprimer à l'instant. C'est-à-dire que c'est même pas nécessaire d'être dans une forme de binarité, quoi. C'est un moment, c'est quoi être humain avec une éventuelle caractéristique qui n'est même pas forcément nécessaire, masculin ou féminin, quoi. Il y a tellement de façons d'exprimer tout ça que peut-être il faut en revenir à quelque chose qui est plus essentiel, qui est c'est quoi notre humanité,
un
quoi.
Notre humain, ouais.
Une petite pause musicale, on s'envoie dans l'espace.
Waouh!
Allez, c'est parti.
Spice for your
Ah, oh, quel duo.
Yes, hein. David Bowie avec la complicité des Pet Shop Boys, Hello Space Boy.
Cool. On continue alors, à parler masculinité sur
ouais,
SLP.
Ouais. Dernier son que je vais proposer pour ce cycle, extrait de Boys, Boys, Boys. Alors, c'est pas le hit de Sabrina.
Ah, c'est, ben voilà, je me disais, waouh, enfin un truc intéressant.
Ah bon? Non, en fait, c'est extrait d'une série documentaire qu'on trouve sur Arte Document. Et c'est, il y a, je sais pas, 10 ou 12 capsules sonores de 4-5 minutes. Je t'en cite quelques-unes. C'est quoi un homme gay? C'est quoi un homme racisé? C'est quoi un homme sans pénis? C'est super passionnant, je trouve, parce qu'en fait, ce sont des témoignages qui sont mis en onde. Et celui que je te propose, là, pour terminer ce cycle, c'est quoi? Un homme féministe.
Super intéressant.
Le déclic s'est passé au moment où j'étais en couple avec une personne qui voulait approfondir sa connaissance des questions féministes et qui m'a emmené en fait à une sorte de débat et qui était sur est-ce que les hommes peuvent être féministes ou pas. Et finalement, il y a une prof d'université qui est intervenue pour dire que la question ne se jouait pas sur est-ce qu'un homme peut se dire ou pas se dire, mais ça se joue dans les pratiques en fait. Et elle disait, moi je travaille beaucoup à la maison et mon compagnon en fait a beaucoup de mal à respecter le fait que quand je travaille, je ne suis pas disponible. Et elle a donné tout un tas d'exemples comme ça, en disant bah, son féminisme passerait par prendre conscience que quand je travaille vraiment exactement comme quand lui travaille. Bah, il travaille vraiment, je ne peux pas aller le déranger. Et ça a vraiment été un déclic parce que je me suis rendu compte que oui, je considérais que mon temps était plus précieux que celui des autres femmes. MeToo et Balance ton porc, ça a été le deuxième choc par rapport à ces questionnements. Réaliser qu'on pouvait dire que toutes les femmes avaient connu des formes de violence liées au patriarcat, ça a été hyper important pour moi parce que c'est aussi à partir de là que je me suis dit que je pouvais pas simplement avoir conscience d'eux. Il fallait vraiment que je me renseigne en fait. À partir de 2017-2018, ma copine faisait partie d'un groupe de discussion qu'avec des femmes. Et c'est un groupe de discussion sur la sexualité. Et je me suis rendu compte que moi, dans ma vie, j'avais jamais discuté de ma sexualité sérieusement, en fait. Entre hommes, souvent, parler de la sexualité, ça se fait sur le ton de la blague, quand ça tourne pas mal vinaigre, c'est-à-dire avec des remarques qui sont pas à propos, enfin... Bref, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que j'essaierais pas de monter quelque chose comme ça dans un groupe qui soit entre hommes. Et l'idée, c'était pas du tout de faire un cercle qui soit interdit aux femmes, comme une sorte de d'ode à la virilité ou de protection face aux méchantes féminazies, quelque chose comme ça. C'était pas du tout le cas. Le premier cercle où on s'est retrouvés, c'était dans mon ancienne colocation. On a fait une sorte d'apéro dînatoire. On était une douzaine. Ouais, la plupart avaient la trentaine. Et après, globalement, ouais, beaucoup travaillaient dans la culture. Il y avait quelques artistes, des musiciens, plasticiens. C'était que des mecs cis. Et c'était à peu près réparti cis hétéros, cis gays, en fait. Voilà. Mais à l'arrivée, c'était intéressant parce que l'orientation sexuelle n'avait pas tellement d'intérêt. Enfin, on parlait de la même chose, en fait. Après, il y a quand même certains sujets qui pouvaient rester un peu difficiles. Je pense à la séance sur la masturbation. Ça a mis un peu de temps avant que les gens véritablement parlent de comment ils pratiquaient la masturbation. Et moi, de mon côté, je m'étais dit, bon, bah, OK, il faut que je fasse, c'est ça ma mission. J'ai raconté vraiment comment je m'y prenais, etc. Et c'était un moment assez marrant d'ailleurs parce que bah, je me suis rendu compte que c'était assez complexe la manière dont je le faisais. Et eux ont rigolé en disant mais en fait, tu fais l'amour tout seul. Et oui. Mais ça a quand même permis que quelques petits trucs se dénouent. Les cercles, ce qu'ils m'ont apporté, bon, ça a été déjà le fait de vivre quelque chose qui n'est pas de la camaraderie virile, qui était vraiment de l'attention. Le fait de se dire, je peux interagir avec d'autres hommes dans un truc de soin et d'égard. Après, ce que ça m'a apporté aussi, c'est que parler de sexualité, ça implique d'aborder la question du corps. Et donc, du coup, ce qui était chouette, c'est que je pense qu'on a tous pris conscience, on était tous très différents les uns des autres physiquement, je veux dire. Il y a des grands, des très grands, des petits, des très petits, et des gros, des moins gros. Et c'était de voir en fait qu'on se débat tous avec une sorte de norme comme ça qui n'existe pas. Enfin. Cette sorte de modèle viril comme ça, unique, il nous saoule aussi, quoi. Si je dois revenir sur cette question de est-ce qu'un homme peut se dire féministe, j'ai entendu, je crois que c'est Fania Noël, qui dans un podcast dit peut-être qu'il suffit de se dire que la question c'est est-ce qu'on peut être une personne décente. Et moi maintenant je me dis ça en fait, que mon objectif c'est d'essayer d'être le plus décent possible dans ma vie. Et
c'est super intéressant. Hein.
Ouais.
Moi, je trouve super bien cette petite capsule-là.
Alors, je t'en conseille plein. Il y en a une bonne douzaine. Elles sont toutes intéressantes sous divers aspects, quoi. Mais j'ai choisi celle-ci parce que je trouvais que c'était une bonne conclusion, transition pour l'émission. Parce que finalement, à la fin, homme féministe, ou plutôt peut-être personne décente. Donc ouais, on en revient. Ouais.
Oui, alors j'aime bien l'idée.
Ouais.
J'aime bien l'idée. Après, le mot décent me gratte
ouais.
Un petit peu. Mais
bon, tout dépend. Je pense, il l'entend pas forcément dans le sens que j'imagine tu peux.
Oui.
Tu
mais
peux
j'ai,
craindre.
J'aime bien l'idée en
ouais.
Fait. Hein, voilà. Tout,
bah moi, je l'entends plus par rapport à ce qu'on a évoqué
ouais.
Juste avant, c'est-à-dire c'est la question de notre humanité qui
ouais,
est
ouais, c'est
qui est en jeu.
Oui, oui. En plus, je vais dire un truc et ça m'est sorti de la tête.
Ah, c'est dommage.
C'est dommage. Mmh. Y a une série espagnole qui est très bien, qui s'appelle Machos Alpha, qui est vachement intéressante sur la déconstruction, justement, des stéréotypes masculins.
Ok, oui, je crois l'avoir vu passer.
Ouais,
sur Netflix, non ?
Sur Netflix. Il y a une version française qui est pathétique.
Ah bon ?
Ouais, mais vraiment pathétique.
L'adaptation qu'il ne fallait pas faire.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
En plus, ils reprennent pratiquement tout le déroulé, enfin les mêmes scènes, etc. Mais ce qu'ils en ont, fait un truc pathétique.
D'accord,
alors qu'en
okay.
Espagnol,
c'est plus riche et plus.
C'est plus riche, c'est plus nuancé, c'est hyper intéressant.
D'accord.
Justement, quoi, c'est quatre mecs, machos alpha, hein, mm-hmm. les mâles alpha, voilà,
ouais.
Qui chacun avec sa personnalité et qui vont faire des stages de déconstruction.
Okay.
Voilà. Et qui ensuite essayent de mettre ça en place dans leur vie. Et c'est super intéressant parce que c'est ce que eux vivent, mais ce que leur entourage vit aussi, notamment leur compagne.
D'accord.
C'est vraiment, elle est vraiment très bien faite. Elle est drôle et elle est super intéressante.
Ok. Alors du coup, puisque tu as donné un conseil culturel, moi j'en donne un aussi. C'est l'avant-dernière, je crois, bande dessinée. Enfin, bande dessinée, c'est vraiment... C'est un pavé, hein. Ça s'appelle Testosteror de Luce.
Ah oui.
Le dessinateur, t'en as entendu parler ?
J'en ai entendu parler.
Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes et c'est pile raccord avec tous les sujets qu'on a évoqués lors de ces émissions.
Bon, bah c'est cool.
Voilà. Entre autres, parce qu'il y a plein de choses à lire et à découvrir autour de ces sujets. Et il ne faut surtout pas s'en priver parce que ça fait du bien et ça ouvre le champ des possibles.
Ouais, ouais, comme ce monsieur là qui fait des cercles de entre
oui,
garçons.
Oui.
Je trouve ça ouais, formidable. Ouais, ouais.
Et puis du coup effectivement c'est comme ça que on peut prendre conscience peut-être de certains conditionnements qu'on peut avoir, les laisser de côté, et puis surtout être à l'écoute de l'autre.
Et parler de choses dont on ne parle pas habituellement.
C'est clair, et c'est pas toujours simple de le faire.
C'est pas simple, et c'est bien. Fin...
C'est important.
Ouais.
Allez, on en reste là.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ciao.